Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. L'Irak accueille cette semaine, vous le savez, le pape François. Après ses rencontres avec les autorités de Bagdad hier, puis l'ayatollah Ali Sistani ce samedi, le chef de l'Église catholique se rendra demain au Kurdistan, puis à Mossoul et Karakoche, à la rencontre des communautés chrétiennes locales. Mais son emploi du temps chargé ne lui permettra pas de visiter le site de Ctesiphon que la fondation suisse Alif et le ministère irakien de la culture et des antiquités tentent de préserver. Cette arche, construite au VIe siècle de notre ère, est la plus grande voûte de briques au monde bâtie avant l'époque moderne. Elle s'élève à 37 mètres de hauteur et mesure 26 mètres de large, ce qui en fait, selon notre invité Valérie Froland, directeur exécutif de la Fondation Alif, un monument d'une grande importance historique et culturelle. À suivre, comme chaque samedi, notre revue de presse, Regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Valérie Froland.
Bonjour Éric Bataillon, merci pour votre invitation.
Directeur exécutif de la Fondation Alif, acronyme anglais pour Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit. Alors tout est dit, ou presque, dans cette appellation. Vous avez décidé de venir au secours du site de Ctesiphon en Irak. Où est-ce précisément ?
Alors le site de Ctesiphon, c'est un site extrêmement remarquable qui est situé à 30-40 km au sud de Bagdad, dans une zone semi-désertique le long du Tigre, près de la ville moderne de Salman Pak. Et donc c'est un site qui est accessible, qui ne pose pas de difficultés particulières, mais aujourd'hui l'un des enjeux, c'est l'accessibilité de manière plus générale de l'ensemble des pays dans lesquels nous intervenons pour des questions à la fois de sécurité sanitaire et sécurité tout court.
Ctesiphon était la résidence d'hiver des rois parthes, puis la capitale de l'empire des Sassanides, avant de devenir le siège du catholicos de l'église chrétienne d'Orient. C'est donc un lieu emblématique de l'histoire du Moyen-Orient. Est-ce pour cela que vous intervenez sur ce site ?
Oui, vous avez raison, c'est l'une des raisons. Il y en a plusieurs. D'abord parce que, vous savez, pour nous, l'Irak, c'est vraiment une priorité. L'une des raisons d'être de la création d'Alif, c'est la protection du patrimoine irakien qui a été pour partie détruit par Daesh, mais aussi qui subit les difficultés de guerre qui dure, d'instabilité qui perdure. La deuxième raison, c'est que nous avons été appelés par le ministre de la Culture irakien qui s'est tourné vers nous. Nous avons avec eux une relation de travail très étroite, quasi quotidienne, et donc il est apparu qu'on pouvait l'aider. Alors nous ne sommes pas un intervenant. Nous finançons des opérateurs capables d'intervenir. Et c'est comme ça que nous travaillons sur ce site avec notamment Penn University, qui est une université américaine. Et puis naturellement aussi, c'est parce que c'est un site à la profondeur historique absolument remarquable et qui a un intérêt pour l'histoire de la région.
Oui, justement, en quoi les vestiges du palais d'un roi perse du 3e siècle ont-ils un intérêt ? Fut-il roi à l'époque ?
Voilà. Alors, l'arche elle-même a été construite, les historiens ont différentes interprétations, mais a priori plutôt autour de 540 par le roi sassanide Khosro Ier. Ce site est remarquable parce qu'en fait, il a traversé depuis plus de deux millénaires toute l'histoire, puisque ça a été le palais d'hiver des rois parthes, c'était une des capitales de l'Empire sassanide, ça a été détruit par les empereurs romains, ça a été le siège catholique de l'Église d'Orient, ça a été aussi incendié lors de la conquête musulmane. Donc en fait, c'est un site remarquable de cette région qui témoigne de la profondeur historique de l'Irak. Et puis c'est un site remarquable sur le plan architectural, parce que c'est quand même la plus grande arche de briques construite avant l'ère moderne, et donc c'est une arche absolument exceptionnelle qui fait 30 mètres de haut et 27 mètres de large.
Oui, les Romains n'auraient pas fait mieux.
Les Romains n'auraient pas fait mieux, exactement. Mais c'est un peu après les Romains.
Et aujourd'hui, Bouygues ou d'autres, Vinci, n'auraient pas fait mieux non plus avec leur construction moderne.
Alors, je ne suis pas un spécialiste de la construction moderne, mais ce qui est vrai, c'est que dans le travail que nous faisons ici, nous rendons compte à quel point l'histoire a rencontré des magiciens de l'architecture. Hein, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de sites qui seraient peut-être difficile à construire aujourd'hui. C'est assez extraordinaire.
Mais comment expliquer que cette voûte en briques remarquable, vous l'avez dit, ait échappé aux très nombreuses guerres qui ont ravagé la région ?
Alors, je n'aurai pas la réponse définitive à cette question. On peut formuler quelques hypothèses. D'abord parce que c'est un site qui suscite l'intérêt, donc l'attention, à tel point d'ailleurs que au cours des 40 dernières années, il a fait l'objet hein, de d'entretiens, d'interventions, y compris d'ailleurs du temps de Saddam Hussein et encore ces dernières années. Et donc il a été globalement protégé par les Irakiens. Il n'est pas très loin de Bagdad non plus, donc ça montre à quel point il est proche des lieux de décision. Et puis aussi parce que, mais là c'est une hypothèse, hein, il est aujourd'hui proche d'une base militaire, alors peut-être que ça a pu contribuer à sa protection par le passé.
Oui, et Daesh n'a peut-être pas pu s'approcher récemment de ce lieu pour le dynamiter.
C'est possible, c'est possible. Hein, c'est possible, ouais.
En quoi consiste la restauration que vous menez et comment est-elle financée ?
Alors, cette restauration, elle est financée par Alif. Hein, c'est une enveloppe d'à peu près 750 000 $. Nous avons d'ores et déjà, à la suite de l'appel de nos amis irakiens en octobre dernier, nous avons diligenté une mission qui a permis de faire un état des lieux. Et puis nous avons fait appel aussi à cette société française Iconen qui intervient beaucoup dans la protection du patrimoine et qui est allée sur place pour documenter en 3D ce site parce que c'est intéressant d'avoir cette documentation pour la suite. Et puis aujourd'hui, on est maintenant dans une nouvelle étape qui est celle d'un travail avec Penn University, avec qui nous travaillons déjà en Irak et qui est spécialiste de la région. Et donc, ils vont faire construire un échafaudage qui va permettre de maintenir la voûte sans faire pression sur cette voûte et maintenir l'ensemble du bâtiment et puis aussi de collecter des données de toutes sortes afin de mettre en place un grand plan de conservation du site qui viendra, lui, beaucoup plus tard. Donc, à ce stade, je pense qu'on aura terminé d'ici 3-4 mois la stabilisation et puis viendra le temps de la conservation qui, évidemment, coûtera beaucoup plus cher. Et là, il faudra sans doute que nous tournions vers d'autres potentiels partenaires financiers.
Oui, c'est une opération en plusieurs étapes.
Exactement. Une opération en plusieurs étapes parce que, vous savez, quand on intervient sur des sites comme celui-ci, ce sont des sites d'une extrême fragilité. En fait, il y a quelques semaines, une partie de la voûte s'est effondrée. Et ce qui est incroyable, c'est que cette voûte, elle avait quand même tenu 1500 ans. Hein, et elle s'est effondrée pour partie ces derniers mois. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu cet appel des Irakiens pour intervenir le plus vite possible.
Valérie Freland, combien de projets votre fondation soutient-elle actuellement ?
Alors, nous avons lancé donc la fondation il y a 2 ans et demi, en septembre 2018. Depuis, nous avons soutenu plus d'une centaine de projets de protection du patrimoine ou de réhabilitation du patrimoine dans 22 pays. Hein. Donc, c'est, je pense, un résultat assez conséquent en quelques mois.
De quel type de projet s'agit-il en général et surtout dans quel pays ?
Voilà. Alors, nous intervenons à la fois pour protéger ou réhabiliter des musées. Par exemple, nous avons protégé les collections du musée des civilisations d'Abidjan. Nous intervenons sur la protection de cités monuments. En Irak, nous intervenons, par exemple, pour la restauration du site d'Atra et nous avons une trentaine de projets en Irak. Nous soutenons aussi la protection de manuscrits ou d'archives, par exemple, au Soudan et dans d'autres pays. Et puis, on soutient aussi le patrimoine immatériel, hein, notamment en Afghanistan, etc. Et puis, l'un des autres axes que l'on va essayer aussi de développer, c'est la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. C'est important. Alors, notre objectif, c'est de soutenir des projets qui sont vraiment concrets et locaux, hein, et qui ont différentes parties, et notamment une partie transfert de compétences, formation, sensibilisation à la protection du patrimoine. Et puis, ce sont aussi des projets qui doivent, de notre point de vue, contribuer au développement économique et social local, si possible à la réconciliation et à la paix. Par exemple, nous avons soutenu la réhabilitation du monastère de Marbenam au sud de Mossoul, en Irak. Eh bien, cette réhabilitation a permis de faire travailler ensemble les différentes communautés qui habitent dans la région, s'agissant d'un monastère qui est chrétien, mais aussi un lieu de pèlerinage yézidi et sunnite. Et donc ça, pour nous, c'est des choses importantes de faire travailler ensemble les différentes communautés ou populations autour d'un projet.
Vous êtes beaucoup, apparemment, intervenu ces derniers mois en Irak et notamment dans la région de Mossoul, et à Mossoul même.
Oui, effectivement. Ben, Mossoul, encore une fois, c'est l'une de nos priorités, hein, comme le Mali, comme le Yémen, comme on est aussi au nord-est de la Syrie. Mossoul, nous sommes présents à travers donc, notre soutien à la réhabilitation du musée de Mossoul, dont on se souvient qu'il a été détruit par Daesh, et donc c'est un symbole fort de la résistance à la fois au terrorisme et à la barbarie. Et puis, nous intervenons aussi au soutien de la réhabilitation de maisons historiques dans la ville de Mossoul ou de lieux de culte. Nous espérons que les chantiers pour la réhabilitation de lieux de culte pourront être lancés dans les prochaines semaines.
Oui, les Émirats arabes unis ont récemment annoncé qu'ils soutenaient la restauration d'une église à Mossoul. Vous êtes aussi partenaire de cette opération ?
Alors, les Émirats arabes unis interviennent par deux voies, finalement, à Mossoul, à la fois par leur soutien important à l'UNESCO, qui, avec les financements émiriens, va réhabiliter la mosquée Al-Nouri, qui est l'un des grands symboles de Mossoul, plus deux églises. Et nous, à côté, nous avons lancé, pour contribuer aussi à cette initiative de l'UNESCO et des Irakiens de faire revivre l'esprit de Mossoul, nous avons lancé ce qu'on appelle la mosaïque de Mossoul, qui va nous permettre de réhabiliter, donc sur fonds Alif, qui sont en partie des fonds émiriens, deux mosquées, deux églises, une maison historique et le musée de Mossoul.
Merci Valérie Frelan.
Merci beaucoup pour votre invitation, à très bientôt.
Directeur exécutif de la Fondation Alif, Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit, nous étions avec vous en ligne depuis votre siège à Genève. La liste des projets que vous soutenez est consultable sur votre site www.alif-foundation.org.
Hebdo sur RFI.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem pour prendre connaissance des grands titres de la presse de la semaine. Bonjour Alexandre Bouchanti.
Bonjour.
Et bonjour Michel Paul.
Bonjour.
Alexandre, la nouvelle politique américaine dans le Golfe fait l'objet d'une large couverture dans vos journaux.
Oui, et c'est la préoccupation qui prévaut chez la plupart des commentateurs. Ils estiment que les États-Unis de Joe Biden sont colombes avec l'Iran et faucons avec l'Arabie Saoudite. Les éditorialistes soulignent que Washington fait preuve d'une grande tolérance à l'égard des violations par Téhéran des accords nucléaires avec l'Occident. Ils notent la satisfaction américaine après la décision de la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni de surseoir à une demande de mise en garde à Téhéran de la part de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les éditorialistes soulignent par contre la publication par l'administration américaine des rapports des services de renseignement indiquant que le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman avait donné son accord pour l'assassinat de l'opposant saoudien Adnan Khashoggi au consulat d'Istanbul. Le sabotage d'une alliance historique entre Washington et Riyad, estime un éditorialiste qui note aussi que l'administration Biden ne considère plus les rebelles houthis du Yémen comme des terroristes, des rebelles soutenus par l'Iran et qui viennent de tirer une salve de missiles balistiques sur l'Arabie.
Et à la une de la presse en Israël, Michel Paul, la crise sanitaire et une nouvelle phase du déconfinement.
Oui, c'est le retour à la quasi-normale ce dimanche, ouverture notamment des bars et des restaurants. Le quotidien Israël Hayom résume en deux mots le sentiment, prudence et espoir. L'espoir est mitigé pour ce qui est des établissements scolaires, avec la réouverture des classes pour de nouvelles tranches d'âge. Enfin, s'écrit un autre commentateur, pouvoir boire un vrai café dans une vraie tasse et pas dans un gobelet en carton. La presse remarque que certains restaurateurs préfèrent attendre avant d'ouvrir pour éviter de nouveaux frais inutiles. Le débat se poursuit, mais sur un ton mineur autour de la fameuse vignette verte accordée aux personnes vaccinées ou ayant guéri du Covid-19, ce sésame qui leur ouvrira les portes notamment des événements culturels. À retenir dans Yediot Aharonot un article d'opinion signé par deux éminents professeurs sous le titre « L'élément éthique ». Les mutations, écrivent-ils, ont changé les règles du jeu. Ceux qui ne se vaccinent pas sont responsables directement de la montée du risque de la mort de milliers d'autres. Pour Haaretz, en tout cas, les zigzags de Netanyahou risquent de se terminer en un nouveau confinement pour la Pâque juive à la fin du mois.
Et Michel, cela approche à grands pas les élections du 23 mars.
L'aéroport international d'Israël rouvre ses portes pour permettre aux Israéliens bloqués à l'étranger de venir accomplir leur devoir électoral. Un peu plus de 15 jours pour cette quatrième élection en moins de 2 ans. Plusieurs sondages et une fois de plus, Eric, il semble clair que les choses vont se jouer dans un mouchoir de poche. Mettre sur pied une coalition gouvernementale ne sera pas une tâche aisée et en cas de réussite, il ne s'agira pas d'un gouvernement stable. En tout cas, à l'heure actuelle, on note un affaiblissement du Likoud, le parti du Premier ministre, et un renforcement du centre-gauche. Mais les deux grands blocs politiques sont à quasi-égalité. Les opposants à Netanyahou pourraient empêcher de créer une coalition, mais sans pouvoir proposer une autre solution eux-mêmes.
Alexandre, de nombreux éditoriaux et commentaires sur la visite du pape en Irak.
Oui, une visite qui suscite un branle-bas de combat sécuritaire et même un couvre-feu dans les villes qui sont visitées par le pape François. Bagdad, évidemment, mais aussi Najaf, où il a rencontré la haute autorité morale, chéïd d'Irak, Ali al-Sistani, mais aussi Ninive et Mossoul, régions où se trouve la majorité des chrétiens chaldéens catholiques. Des journalistes notent que cette communauté autrefois importante, plus de 2 millions de personnes, n'en compte plus qu'un demi-million. Un exode massif qui a eu lieu à cause des exactions des milices chiites après la chute de Saddam Hussein en 2003 et des persécutions après la prise de la région par le groupe État islamique en 2014.
Et puis un sujet sur la créativité artistique victime des crises dans le monde arabe, Alexandre.
C'est en tous les cas le constat que fait le chanteur-compositeur libanais Marwan Khoury dans une interview au journal Al-Sharq Al-Awsat. Il estime que les violentes crises politiques et sociales qui déchirent le monde arabe ont affecté la créativité des artistes qui cherchent la sécurité au milieu de la tempête plutôt que l'innovation plus risquée. Il conclut que le coronavirus n'a fait qu'empirer une situation déjà catastrophique.
En bref, Michel, 3 sujets dans vos journaux.
La décision de la Cour pénale internationale sur l'ouverture d'une enquête sur des crimes de guerre en Cisjordanie et à Gaza, un quotidien titre « La plaie de la haie ». La presse relaie le rejet quasi unanime de la classe politique de cette décision et l'éditorialiste de Haaretz proclame « Israël n'a rien à cacher ». Dans les journaux, toujours la marée noire, la ministre Gila Gamliel accuse l'Iran d'être responsable d'un attentat écologique, étonnement de la part des responsables de son propre ministère. Et un autre sujet, Eric, qui fait couler beaucoup d'encre ici, la décision de la Cour suprême israélienne de reconnaître les conversions non orthodoxes au judaïsme. Un journaliste le souligne, cela fait 73 ans qu'Israël n'arrive pas à répondre à la question « qui est juif ?».
Et votre photo cette semaine, Michel ?
Eh bien, ce sont des photos de salles de sport et de piscines ouvertes en Israël depuis une semaine maintenant, mais pour les détenteurs de la vignette verte seulement.
Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission de RFI réalisée par Mathias Golchani que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Demain, nous explorerons 2 sujets. Le premier concerne la Journée internationale des droits des femmes et nous aurons en ligne, depuis Barcelone, une représentante de l'Union pour la Méditerranée qui a mis en place un mécanisme lié à l'égalité entre les genres. Et puis, une politologue algérienne nous dira comment son pays a accueilli le rapport de l'historien Benjamin Stora sur la mémoire de la guerre d'Algérie. À demain donc, dans un instant, le journal.
Carrefour de l'Europe.